Bim.
Yes.
Un, deux, trois, c'est parti. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis avec mon compère Pierre Godard. Salut Pierre.
Hello Guy, ça fait plaisir de revenir par ici.
Le plaisir est partagé, Pierre. Pierre, tu fais partie des premiers invités du podcast Débrouillard. Et en plus, tu fais partie justement des premières personnes qui m'ont poussé à lancer ce truc. J'ai traîné, pour ceux qui savent, au moins un an avant de lancer ça. Et même au moment de lancer, j'avais un petit peu ce syndrome de l'imposteur. J'hésitais un petit peu. Je me disais, oh, est-ce que je suis légitime? De quoi est-ce que je vais parler et tout? Et tu faisais partie justement des premières personnes qui m'ont poussé, qui ont dit, mais ben lance et puis on va voir ce que ça donne, quoi. Donc là, on se retrouve un an après. J'ai continué de poster toutes les semaines. C'est l'un des projets où j'ai été le plus. C'est l'un des rares trucs que j'ai réussi à tenir comme ça aussi longtemps. Je voulais te remercier pour ça, te remercier du fait que tu reviennes aujourd'hui pour qu'on fasse une sorte d'épisode update pour parler de toi parce que de ton côté, il s'est passé plein de choses aussi. Tu vas nous raconter et on va faire un petit bilan, quoi. Donc déjà, est-ce que tu peux te présenter?
Ouais, carrément. Bah écoute, merci déjà de me recevoir. C'est super plaisir de revenir, de discuter avec toi, de faire un peu le point sur nos avancées à tous les deux. Et ouais, moi, ça me fait plaisir de voir où t'en es aujourd'hui parce que tu avais lancé, je crois que tu avais dit fait 12 ou 20 épisodes. Puis tu n'osais pas trop les lancer, tu as mis un peu de temps et après, une fois que tu es parti, la furie, quoi. T'es
Clairement.
parti, t'as pu arrêter, comme tu dis là. Je pense que si tu tiens aussi facilement, c'est parce que tu kiffes, quoi. Ça se voit que tu as trouvé ton truc, quoi. C'est un des formats qui, toi, te correspond et ça fait plaisir de te voir comme ça. Alors moi, pour me présenter rapidement, j'ai pas mal évolué comme toi depuis l'année dernière. Aujourd'hui, je fais essentiellement du business coaching et à assez haut niveau. Tu vois, on commence sur des deals à 100K. Et l'idée, c'est j'accompagne des personnes qui se font du copywriting, des experts en vente, des marketeurs, des business coachs aussi qui veulent passer à l'étape au-dessus, quoi.
Yes. Donc, la dernière fois qu'on a échangé, tu étais vraiment en mode nomade digital, tu étais partout, tu étais à Chiang Mai, tu étais, je crois que tu étais même au Portugal, non?
Non, je suis allé aussi à Bali et après j'étais repassé en Europe.
Bali. Tu étais quand même en Amérique, là, je sais pas si c'était l'Amérique de.
Non,
Tu
non, même pas.
étais juste en Asie, je pense que je pensais que tu étais aussi allé dans les.
Suis allé en Géorgie, tu vois, des trucs vraiment.
Géorgie, ok, Europe de l'Est. Et là, tu es en Estonie.
Estonie, ouais, là, ça y est, je suis installé, bah, j'ai pris un appart et je vais rester ici un moment. Peut-être pas l'hiver, tu vois, je vais peut-être un peu bouger l'hiver, mais. Je pense que je vais rester ici entre 6 et 10 mois par an.
Et justement, comme je disais donc, à l'époque, tu étais en mode, tu bougeais assez, tu avais déjà eu une expérience entrepreneuriale avec même des associés, des partenaires en France avant de bouger. On en a discuté, donc n'hésitez pas les gens à aller checker le premier épisode. C'est l'épisode 7 qu'on enregistre ensemble pour voir un petit peu le début entre guillemets de Pierre, même s'il avait déjà fait des trucs avant. Aujourd'hui, on va essayer de déjà faire un bilan avant de s'attarder sur ce que tu fais. Sur les différents programmes sur lesquels tu te déploies, les personnes, les profils que tu accompagnes ou les entreprises que tu accompagnes. Près d'un an après, qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux nous raconter un petit peu ton aventure?
Ouais, il s'est passé plein de trucs. Alors, quand on avait parlé, moi, je faisais encore de. J'étais dans la niche orientation scolaire. Et en fait, je suis sorti assez vite de ça parce que je me suis rendu compte que ce qui me plaisait le plus, c'était le make money, l'entrepreneuriat. Tu vois, apprendre aux gens, moi, apprendre à vendre et ensuite à apprendre aux gens à vendre, structurer des business, créer des offres, faire du copywriting, etc. Donc, j'ai commencé en tant que copywriter. Donc, j'ai fait le copywriting des gens. Et assez vite, je me suis rendu compte que. Les clients avec qui je bossais, ils n'avaient pas forcément un problème de juste copywriting marketing, mais ils avaient un problème plus global. Et souvent, ils savaient à peu près ce qu'il fallait faire techniquement. En tout cas, tu vois, ils avaient les grandes lignes. Mais là où ils avaient le problème, c'est surtout, enfin, il y avait tout le temps un peu un truc derrière de peur, de mindset, de trucs comme ça. Donc, tu vois, en tant que business coach, je me positionne, des deux côtés. Et donc voilà, j'ai fait la transition copywriter, ensuite plus business coach, et maintenant je suis vraiment là-dedans. Enfin, tu vois, juste je monte des niveaux de business coach, je prends des clients sur des projets de plus en plus pertinents. Et en gros, là, maintenant, je suis partenaire avec les deux plus gros du business coaching, donc qui sont Jérémy Coleman et Florent Morata. Donc, c'est les plus gros qui font pas de pub. Donc, pour ça, peut-être que tu les connais pas.
Bon, en même temps, c'est sur une niche qui n'est pas forcément mainstream, tu vois. Si tu poses la question, bon, là, ça commence déjà de plus en plus à se faire connaître, mais si tu poses la question à, il y a de cela peut-être 2 ans ou 3 ans à 100 personnes, si c'est quoi le copywriting, ils sont incapables de définir ce que c'est, tu vois. C'est quelque chose dont les gens ne connaissent pas forcément. Pourtant, ça reste quelque chose de hyper puissant. C'est même le socle, en fait, de tout ce que l'on fait aujourd'hui. Si on est capable de présenter, de packager ou de vendre un produit ou un service, c'est justement par cette capacité-là à écrire des messages, des lettres qui vendent. Tu vois, donc je pense que c'est peut-être pour ça qu'ils sont pas forcément et en plus, vu les prix, ce sont pas des trucs qui se vendent à quelques centaines d'euros et ce genre de deal généralement, ben, c'est mon avis personnel, ça se négocie plus dans des événements, des confs ou c'est très peu dans des pubs classiques comme on a l'habitude de voir, quoi. Donc je pense que c'est ça qui expliquait le fait que on n'entend pas forcément parler d'eux dans les médias mainstream ou dans même dans notre écosystème mainstream, on n'entend pas forcément parler d'eux, quoi. À mon avis, quoi. Donc peut-être tu peux mieux expliquer que moi, mais c'est le regard que moi j'ai par rapport à ça.
En gros, si tu veux, nous on s'est positionné sur du haut de gamme et on n'a pas besoin de parler à 100 personnes par jour, tu vois. Tu peux parler à 2 personnes par jour et signer deux nouveaux clients. Et tu parles que aux personnes qui sont déjà très qualifiées, en fait. Moi, j'en suis à un stade où je préfère être pote avec les 10 patrons du 440 qu'avoir 300 000 followers sur YouTube, tu vois. Yes. Donc, y a pas forcément besoin de faire de publicité parce que quand tu sais où sont les personnes avec qui tu veux bosser, nous, on a des process qui sont automatiques et qui te ramènent ces personnes à toi naturellement. Et ensuite, bah, tu as un petit travail de sélection quand même, tu vois, pour voir avec qui ça fit humainement. Mais l'idée, c'est vraiment sur la qualité et pas la quantité, quoi.
Yes. On va revenir sur justement cette collaboration avec tes deux associés. Mais je voulais que qu'on revienne un petit peu derrière, que tu nous parles un petit peu du. Tu as fait du copywriting sur des sujets assez variés. Tu vas nous en parler, j'imagine, dans du e-commerce et peut-être d'autres niches d'infoprenariat.
Non, j'ai pas fait du commerce. Moi, j'étais assez focus. Au début, j'ai testé plusieurs niches, mais après, je me suis très vite mis dans l'investissement et le make money, justement. Donc, coaching, formation pour apprendre à créer un business, etc.
OK. Déjà, peut-être pour ceux qui ne sont pas familiers, comment est-ce que toi, tu définis ce terme de copywriting?
Donc, copywriting ou copywriter, c'est deux choses différentes. Copywriting, c'est une compétence, c'est vendre.
Les deux. Donc, explique-nous, on part peut-être sur du copywriting et ensuite on revient sur copywriter.
Donc, copywriting, c'est vraiment simple, hein, c'est écrire pour vendre. Donc, tu vas écrire, exemple vraiment de base, c'est un email ou une lettre. Tu envoies un email ou une lettre à quelqu'un, tu lui parles de ce que tu as, de ton service. Bien sûr, tu vas pas commencer à parler de ton service. Tout le but du copywriting, c'est de rendre ça persuasif. Mmh. Donc, tu vas parler à la personne de ce qu'elle veut vraiment dans la vie. Et à la fin, tu vas lui dire, voilà, si tu as envie d'aller plus loin, j'ai mon produit, mon service, et on peut aller plus loin ensemble. Et donc, c'est un truc qui, tu vois, c'est un truc qui a été popularisé par des gars comme Gary Albert, Gary Ben Sivenga, ce genre de personnes, Dan Kennedy, etc.
Je peux préciser l'année, parce que les gens vont croire que c'est quelque chose qui date d'il y a 2 ans, 3 ans. Gary Albert, on parle vraiment des années, il n'y avait pas d'ordinateur,
Ouais, c'est ça, il n'y avait pas encore Internet. Et eux, c'est des mecs qui faisaient plusieurs dizaines, voire centaines de millions avec l'inflation sur une campagne d'email,
de lettres, les lettres de vente.
Et donc, ils allaient t'envoyer une page de vente qui allait faire peut-être 2 pages à 4. Et à la fin, les gens, ils disaient, OK, bah, vas-y, je lui envoie 30 $, tu vois. Et ils faisaient ça sur une masse de personnes. Et le truc était tellement persuasif, tellement bien ciblé, qu'ils faisaient énormément d'argent comme ça. Et aujourd'hui, on fait la même chose, mais juste. Tu peux encore le faire par courrier papier, tu vois, moi, c'est déjà un truc que j'ai testé avec des clients, mais globalement, ça se fait par email.
Il y a Grégory Lagrange qui il explique aussi très bien, ouais, lui, bon. Il envoie carrément par la poste, son bouquin même, je pense, non, si je ne m'abuse.
Ouais, son bouquin, j'ai pas acheté son bouquin, mais moi, je suis abonné c'est un truc hebdomadaire que tu reçois, en fait, c'est un truc de 26 pages, c'est pas hebdomadaire, c'est mensuel, pardon. C'est un truc de 26 pages où il te parle des derniers concepts de persuasion qu'il a trouvé super taf. Moi, j'aime beaucoup ce que Greg fait. On est des bons potes et on s'est vu là, dernièrement à Toulouse, juste avant le confinement. On a bien rigolé tout le week-end. Donc, ouais, il y a des trucs vraiment sympas qui se font sur le marché aujourd'hui. Mais ça, c'est un truc très niché, tu vois. Il y a très peu de gens qui s'intéressent au copywriting. Pour moi, le copywriting, en fait, c'est vraiment les fondamentaux de la vente et du business. Tu vois.
Yes.
Et la plupart des gens, bah, ils vont pas tout de suite vers les fondamentaux. Ils commencent par les trucs plus faciles qui sont peut-être la publicité Facebook, ce genre de choses. Et pour moi, tu vois, pour réussir dans le business, tu commences par une compétence profonde comme le copywriting. Parce qu'en fait, ce qui vient derrière le copywriting, c'est la psychologie humaine. Tu vois. Donc là, c'est vraiment la base. C'est comment le cerveau des gens fonctionne pour pouvoir, une fois que tu comprends comment les gens fonctionnent, ce qui leur fait prendre des décisions ou non, ensuite, tu peux leur vendre beaucoup plus facilement. Et donc là, tu peux utiliser du copywriting, ce genre de choses. Donc maintenant, qu'est-ce que c'est un copywriter ? Le problème en France, en tout cas, moi, j'ai capté ça assez vite quand je vendais moi-même du copywriting, ce que je ne fais plus aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, en France, les gens, ils voient un copywriter comme quelqu'un qui va écrire un article de blog, comme quelqu'un qui va écrire des fiches produits, quelqu'un qui va écrire des emails, mais ils ne voient pas ça comme...
Ils mélangent tout, quoi, avec rédacteur web et tout, ils mélangent tout, ça peut
le marché il est comme ça, puis moi je peux comprendre aussi que tout le monde s'intéresse pas à ça, tu vois, c'est un sujet vraiment de niche le copywriting, mais du coup aujourd'hui les vrais copywriters, il y a très peu de gens qui savent ce que c'est, mais un vrai copywriter c'est un mec comme Dan Kennedy et qui va écrire une séquence email qui va générer plusieurs millions d'euros, tu vois, et donc t'as aucun problème avec un mec qui te fait gagner 10 millions à lui en donner un, tu vois,
c'est clairement.
Tu partages le gâteau. Sauf qu'aujourd'hui, la plupart des gens, ils se disent « Ah bah, je vais prendre un copywriter, puis il va juste m'écrire ma séquence email, mais il va pas me faire gagner 10 millions. » Donc, le problème, c'est que les gens, ils ont un peu du mal à voir le haut du métier. Enfin, c'est juste le marché n'est pas encore mature à ce niveau-là en France. Par contre, aux États-Unis, tu vois, moi, j'ai pas mal de potes aux États-Unis. Ils vont vendre une séquence email de 7 mails qu'ils ont écrit en 2 heures. Tu vois, moi, je vais être posé avec eux dans un café. « Ah là, je viens de leur envoyer la séquence email. A priori, on fait 5 millions dessus. Moi, je prends 100K. » Et c'est totalement normal aux États-Unis. Après, c'est sur des gros business, etc. Et donc voilà, je pense juste qu'en France, c'est le temps que les business grossissent, que ce soit plus mature, et ça va arriver petit à petit. Donc voilà, copywriting, copywriter.
Et c'est super intéressant. Justement, pour parler des domaines dans lesquels tu as exercé avec cette compétence-là, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Est-ce qu'on peut creuser un petit peu le sujet pour voir... entre guillemets, parce que c'est un gros sujet et c'est vaste, on va pas tout développer ici, mais pour voir un petit peu je sais pas si on peut dire applicabilité, je sais pas, ou à peu près comment est-ce que ça se déploie en temps réel, quoi.
De quoi exactement, le copywriting?
Le copywriting. Je vais dire peut-être déjà le domaine que tu as le plus creusé, il nous dit un petit peu à peu près le process, ton process d'écriture ou...
Du coup, le domaine, tu veux dire la thématique?
La thématique, voilà, la niche ou le...
Celle que j'ai le plus creusé, c'est celle dans laquelle je suis toujours aujourd'hui, c'est le business coaching. Et j'ai bossé aussi beaucoup dans l'investissement. Donc après, l'investissement, c'était plus large. C'était les classiques immobilier, bourse, bitcoin, or, argent, etc. Et en gros, le copywriting, c'est assez simple, tu vois. Tu pars de la base, couple, cible, plus problème. Donc cible, c'est à qui est-ce que tu parles. Et problème, c'est quelle est sa douleur et où est-ce que tu te positionnes. Donc, je sais pas, par exemple, dans l'investissement, tu vas prendre par exemple une cible d'ingénieur et c'est des gens, leur problème, c'est ils veulent sortir de leur boulot. Ils en ont marre, tu vois, d'avoir un CDI. Je prends un exemple vraiment classique. Ils en ont marre d'avoir un CDI et ils veulent investir pour avoir des revenus passifs, entre guillemets, ou enfin bref, des revenus hors de leur salaire. Donc, l'exemple le plus simple, c'est l'immobilier. Donc, tu vas investir, tu vas acheter 1, 2, 3, 4 biens immobiliers, tu vas gagner plus que ton salaire en cash flow positif. Le cash flow positif, c'est en gros, c'est les revenus que tu as en investissant, les revenus que tu as par mois en investissant dans l'immobilier. Et donc, tu vas pouvoir quitter ton taf. Et donc, toi, par exemple, si tu fais du copywriting, donc ton but, c'est de vendre de la formation ou de l'accompagnement à ces ingénieurs, tu vas te dire, OK, bon, le mec, mettons qu'il ait 25, 35 ans, il bosse à la défense. Ce qui le fait chier, c'est que quand il parle avec ses collègues de boulot post-café, lui, il dit « Ouais, moi, je vais investir dans l'immobilier. » Il dit « Mais t'es fou, pourquoi tu fais ça ? Enfin, t'as un bon salaire, garde ton boulot, cherche ta prochaine promotion. » Et donc, toi, ton le rôle d'un copywriter, d'un entrepreneur aussi, alors moi, je trouve que c'est très proche d'être copywriter et entrepreneur au final, c'est de, OK, tu as ta cible, tu connais son problème, maintenant, il faut se mettre dans sa tête. Et donc, en fait, tout part de, une fois que tu as ton couple, cible, problème, là, tu vas développer de la connaissance client. Donc, la connaissance client, tout simplement, c'est savoir ce que veut vraiment ton prospect au fond de lui. Et c'est très, très délicat comme sujet parce que les gens ne savent pas ce qu'ils veulent, souvent. Il y a très peu de personnes dans le monde qui savent vraiment ce qu'elles veulent. Et souvent, c'est les personnes qui ont énormément de succès, tu vois. Et tu vois, par exemple, moi, je passe vraiment plusieurs heures par jour à réfléchir à qui je suis, ce que je veux, où je veux aller. Et je ne suis pas encore au clair à 100%, tu vois, parce que bah, j'ai commencé cet exercice, il n'y a pas encore... Ça fait pas encore 10, 20 ans que je me pose ces questions, tu vois, tout simplement parce que bah, j'ai pas encore 10, 20 ans d'expérience. Mais moi, tu vois, les personnes que je fréquente qui ont plus 30, 40, 50 ans et qui ont déjà ces 10, 20 ans d'expérience, ils savent exactement ce qu'ils veulent. Et donc, bon, pour eux, c'est très simple. Mais la plupart des gens ne savent pas parce que, bah, ils veulent, par exemple, être libres financièrement, mais ils savent pas vraiment pourquoi, tu vois. Ils savent que ça va être cool, mais ils savent pas précisément que c'est parce que ils ont vécu tel truc dans leur enfance et ils ont donc tel problème. Et donc, ils ont envie de mettre leur famille en sécurité. Et donc, parce que leur père n'était pas présent, ils ont envie d'être présents pour leurs enfants. Et ça, bah, tu vois, ça semble évident une fois que tu l'as trouvé, mais pour le trouver, c'est du taf, tu vois. Il faut vraiment réfléchir, creuser au fond de soi. C'est assez difficile, tu vois. Des fois, ça fait chier. Des fois, tu relèves des choses qui ne sont pas agréables. Et donc, le copywriting, en fait, c'est comprendre la petite voix dans la tête des gens et ensuite l'écrire. Genre, juste parler de la petite voix. Tu n'es pas en train d'essayer de convaincre, tu n'es pas en train de dire que ton produit, il est magique, il va changer leur vie. Tu leur dis juste, écoute, je sais que ta petite voix, elle te dit ça. Je sais que c'est parce que ton père, il n'était pas présent. Toi, tu as envie de trouver une façon d'investir. En plus, tu aimes bien l'immobilier, tu aimes bien les beaux endroits. Tu as envie d'investir, tu as envie d'avoir ces revenus pour pouvoir quitter ton taf, pour avoir du temps avec tes gosses. Et une fois que tu as compris vraiment ça, et donc là, je te prends un exemple, mais selon toutes les cibles, c'est vraiment différent. C'est pour ça que c'est vraiment intéressant d'ailleurs de se spécialiser dans un business ou dans en tant que copywriter, parce que du coup, tu vas tout le temps bénéficier de cette connaissance client. Tu vois. Donc en vente, tu as 10% de technique. Donc est-ce que tu sais vendre, est-ce que tu connais, on va dire, les bases de la vente. Et ensuite, tu as 90% de connaissance client. Donc est-ce que tu connais la petite voix que se disent les gens dans la tête? Est-ce que tu connais les codes dans certains milieux? Et donc... Moi, c'est pour ça que je me suis spécialisé assez vite là-dedans, parce que tout simplement, ça m'intéressait. Je suis avec des personnes comme ça en permanence. Et donc, tu vois, un des meilleurs moyens de récupérer de la connaissance client, c'est d'être en soirée, il est 6h du mat, tu es avec cet ingénieur là qui veut quitter son taf, puis il est un peu bourré en fin de soirée, et là, il te dit vraiment ce qu'il a au fond de lui. Tu vois. Et ça, pour moi, c'est le truc qui a le plus de valeur dans le business. C'est vraiment savoir ce que les gens veulent au fond d'eux, sans filtre. Vraiment sans tout ce que la société tout ce qu'on fait pour sembler bien par rapport à la société, tu vois, c'est ce que les gens vraiment, ce qui est vraiment sincère, quoi. Donc pour moi, c'est ça le taf de copywriter, et c'est trop amusant, hein. Moi, je suis plus aujourd'hui, je ne vends plus de copywriting, mais dans mon business, j'utilise encore cet outil en permanence. Je vais l'utiliser toute ma vie, et ce qui est marrant, mais c'est que ça sert même en dehors du business, tu vois, genre par exemple dans mes relations avec mes parents, avec mes proches, même mes relations amoureuses, par exemple, je vais beaucoup plus réfléchir, OK, c'est quoi la petite voix dans la tête de ma mère, par exemple, et du coup, pourquoi quand elle agit d'une façon que je comprends pas, que je trouve bizarre, bah, me mettre à sa place, donc avoir de l'empathie, et bah, pouvoir lui donner ce qu'elle veut, ou comprendre où nous, on va pouvoir matcher, et moi, ce que je veux, elle, ce qu'elle veut, et puis qu'on puisse trouver un compromis entre les deux. Du coup, on a des relations trop cool, tu vois. Donc, voilà comment moi je vois le copywriting aujourd'hui.
Yes. Pierre, dis-moi, tu penses que c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde?
Ouais, bien sûr. Ça demande juste de savoir se remettre en question. Donc, si tu penses que tu es le meilleur, que tu sais déjà tout, que les autres c'est tous des cons, qui devraient tous faire comme toi, et que tu n'essayes pas de dire que chacun est différent, chacun a une vision du monde différente, bah, tu n'y arriveras jamais. Par contre, je sais pas si t'as pas fait d'études. Moi, j'ai pas fait d'études. Hein, moi, j'ai juste le bac. Je me suis viré de mes études. C'est encore pire. Toi aussi, d'ailleurs, je crois que t'as pas fait d'études. Tu réussis très bien. Donc bon, ça c'est bullshit. Je viens d'une famille riche ou pas riche. Moi, pareil, je viens pas d'une famille riche, tu vois. Donc bon, bah, j'ai quand même réussi à le faire. Il y a aucun souci. Le seul truc, c'est si t'as vraiment.
Tu faisais ces trucs. Comment ça, tu t'es fait virer de tes études?
C'est pas un truc dont je parle souvent, mais en gros. J'aimais pas les études parce que bah, typiquement les études, ils font pas de copywriting, tu vois. Ils essayent pas de rendre le truc sexy et ils écoutent pas tes besoins, tu vois. Donc c'est dur, c'est chiant, moi j'aimais pas. Et enfin j'aimais, tu vois, certains trucs très précis. Par exemple la psychologie, je pouvais bouffer ça, j'allais lire tous les livres, etc.
T'as fait comme études déjà? Je veux dire, après ton bac, t'as commencé quoi? Qu'est-ce que tu as commencé avant de te
J'ai
faire
fait
bac?
2 mois de fac d'éco, et ça c'est moi qui suis parti. C'est horrible, vraiment, ça sert à rien. Enfin, moi, par rapport à moi, ce que je voulais faire, ça ne servait à rien. Genre, pour être entrepreneur, juste la fac. Enfin bon, je sais pas, j'ai pas fait toutes les facs, mais moi, en tout cas, j'ai un avis très très négatif là-dessus. Je pense que c'est des gens qui n'ont jamais rien fait de concret, qui essayent de t'apprendre la théorie. Enfin, pour moi, c'est voilà, ça fait pas avancer les choses. Ça le faisait peut-être il y a 30 ans, mais aujourd'hui le système est plus en cours. Bref, c'est un autre débat, tu vois, si on veut rentrer là-dedans, moi c'est un truc.
Ouais, ça c'est complexe. D'aucuns vont te dire, ouais, c'est des trucs qui sont applicables lorsqu'on parle peut-être de 440 ou bien lorsqu'on c'est pour aller rejoindre, je sais pas, peut-être un McKinsey ou un JP Morgan. Mais pour lancer un truc qui pose PME ou bien PME, tu n'as pas le temps d'aller faire des business plans ou des trucs. Là, tu es encore en train de te chercher, tu n'as même pas encore peut-être le MVP. Donc, c'est pas forcément intéressant pour toi d'aller déjà sur des gros tableurs Excel qu'on voit dans ces unis qui sont pas forcément applicables à ce petit level-là, quoi.
Et même, tu vois, moi, je pense que, enfin, je suis convaincu que la société, elle va de moins en moins vers des gros mastodontes et de plus en plus vers plein de petites équipes un peu autonomes qui bossent ensemble. Donc, il y aura peut-être quand même des grosses entreprises, mais ce sera plein de petits groupes. Et c'est ce qui est en train de se faire dans les McKinsey, les Amazon, les boîtes qui bossent bien. C'est plein, plein, plein de petites catégories. Il y aura plus ces énormes échelles, hiérarchiques, en fait, tu vois.
Ouais, ça se voit même sur les profils des personnes qui rejoignent ces boîtes-là. Quand tu vois des études, des stats, des profils interrogés, ils sont nombreux là. Ils veulent pas forcément, après leur diplôme, rejoindre ces gros. Il y en a toujours, hein, mais il y en a de moins en moins, à tel point que ce sont ces boîtes-là qui essaient d'aller pécho.
Ouais.
C'est plus l'inverse, quoi. Les gens se bousculent pour rejoindre ces boîtes-là. Tu vois, généralement, elles veulent ces profils, ces jeunes-là, ils veulent soit construire leur propre truc ou rejoindre une team d'une start-up qui est déjà en place.
Ouais,
Donc,
exactement.
yes.
Parce qu'on cherche plus une raison d'être maintenant que juste la sécurité financière, tu vois.
Yes. C'est super. Je te propose peut-être qu'on parle de tes associés, si c'est OK pour toi, pour comprendre un petit peu comment vous bossez. Justement, c'est Mr. Morata, je connais pas son prénom, et Mr. Coleman.
C'est ça, ouais.
Je les connais pas personnellement, mais je regarde un petit peu ce qu'ils font, même la façon, surtout Coleman, j'ai beaucoup regardé un petit peu sa façon même de s'exprimer, sa façon de communiquer qui est assez particulière, pour quelqu'un justement qui est dans la niche, très 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 critiqué du make money. Il y a beaucoup beaucoup de, si tu tapes sur YouTube, tu vas voir ce qui se dit. Il a une façon assez particulière de communiquer dessus. Qui n'est pas forcément crash, qui n'est pas forcément viens, je vais t'apprendre comment faire 100 millions, tu vois, c'est pas mais pourtant c'est à peu près ce qu'ils vendent, tu vois. Tu vas me dire que c'est sa capacité à utiliser cette compétence de copywriting. Donc c'est déjà c'est quoi votre pro, comment est-ce que vous bossez, comment est-ce que tu as déjà rencontré ces deux profils-là pour commencer?
Je t'en parlais tout à l'heure, je suis allé en Géorgie l'été 2019. C'est un pote qui me dit, tiens, regarde ce mec Jérémy Coleman, je vais boire un verre avec lui tout à l'heure, il fait de la persuasion, je rentre dans sa liste email. Je me dis, ah ouais, pas forcément intéressant, mais j'ai pas besoin de business coach en ce moment, machin. Et 2, 3 semaines après, je rentre en Europe et je vois un mail qui dit, bah nous, on organise un truc en Géorgie, c'est une immersion pendant une semaine, tu peux candidater. Je leur envoie un message, je leur dis, bah moi je suis chaud, j'ai envie de venir, j'ai envie de rencontrer des mecs qui font du business. Ils me disent OK, viens, j'y vais. Et là, on passe une semaine de fou. Ils détruisent mon business et ils me disent, bah, en fait, enfin, je me rends compte que je sais pas vendre. Je me rends compte que mon business il fonctionne pas, que j'ai pas un système pour amener des clients, etc. Et je me dis, bon, OK, ces deux mecs ils sont beaucoup trop forts. On match beaucoup trop humainement. Enfin, moi, je les ai adorés tout de suite. Et tu vois, notamment à un moment, je leur ai posé la question. Je lui ai dit, Florian, toi, pourquoi est-ce que tu as décidé de t'associer avec Jérémy? Tu vois, c'est quoi le truc qui vous a fait qui vous a donné envie de bosser ensemble. Il m'a dit, écoute, moi, c'est simple. Je suis entrepreneur depuis mes 14 ans. J'ai été à peu près toute ma vie seul dans mon bac à sable avec personne qui me comprenait. J'essayais de faire mes trucs. Et là, il y a un pote qui je me rends compte qu'on a envie de jouer exactement le même jeu et de monter exactement les mêmes châteaux de sable. Je dis, bah écoute, c'est ça, viens avec moi dans le bac à sable et on va jouer ensemble. Tu vois. Donc, j'ai entendu ça. Je me suis dit, OK, bon, c'est exactement ma vision du business. Moi, je veux juste m'amuser. Tu vois. L'argent, c'est une conséquence. C'est bien, il en faut, etc. Mais une fois que tu as dépassé ce truc, tu veux juste des gens avec qui tu t'amuses toute la journée. Et puis nous, avec Jérémy, par exemple, on se fait des blagues toute la journée de trucs qu'on envoie, machin, quand on crée une offre, on est juste trop heureux, tu vois. On a le smile, etc. Donc, enfin, c'est vraiment la vision de business que je voulais et que j'avais pas encore à ce moment-là. Donc, en fait, moi, j'ai commencé avec eux tout simplement en tant que client. Ils m'ont coaché. Donc, c'était depuis juillet 2019. Après, bah, j'ai vraiment bien, j'ai été un des meilleurs clients, j'ai bien explosé, etc. Et assez naturellement, on a commencé à vendre des offres ensemble. Donc, eux, ils ont une formation qui s'appelle Mercure. Et moi, je vendais du coaching par-dessus qui se complète super bien ensemble. Donc là, j'ai des clients actuellement là-dessus, sur cette offre qui ont de très bons résultats, etc. Donc, c'est vraiment une offre qui fonctionne bien. Et maintenant, là, on n'est pas encore associé officiellement. On est en train de voir comment on a envie de s'associer. On a envie de faire un truc tous les trois ensemble. Donc, on est en train de bosser dessus en ce moment-là. Je pourrais t'en dire plus peut-être l'année prochaine.
Yes. Si est-ce que pour Mercure, on pourra mettre un lien en description ou c'est quelque chose?
Ouais, bien sûr. Mercure, du coup, c'est une formation... Tu vois, tu disais, Jérémy, il est dans la niche des gens qui te promettent 100 millions. Justement, le Mercure, c'est un peu le contre-pied de ça. C'est en mode, t'as pas besoin de faire 100 millions pour être heureux dans la vie. Tout le monde n'a pas envie de faire une start-up ou d'être multimillionnaire. Par contre, c'est cool de bien gagner sa vie si t'as envie d'être coach. Et bah nous, on a une méthode pour t'aider à faire 0 à 100K qui est facile. Tu peux faire ça en 12 mois. Tu vois, moi, par exemple, je l'ai fait en 7-8 mois, je crois, de 0 à 100K avec leur méthode. Donc voilà, tu vois, c'est vraiment, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué et c'est un truc qui est cool et t'as pas besoin de bosser 10 heures par jour. C'est vraiment, tu te focuses sur des actions. Tu vois, moi, par exemple, au début, je bossais 4-5 heures par jour et là, maintenant, je le fais plus, mais les dernières semaines avant de switcher de modèle, je bossais une demi-heure, une heure par jour et le business, il tourne, quoi. Donc, tu vois, c'est pas tout automatique. C'est pas, tu vas gagner des millions sans rien faire, mais c'est, tu te focuses sur ce qui est important. Et tu vas pas non plus te casser la tête. C'est un business. Tu prends un truc simple, un truc qui te plaît. Tu bosses avec des gens que t'aimes. Tu délivres des résultats parce que c'est simple pour toi. Tu te bases sur tes forces. T'as un système marketing très simple à suivre. Et du coup, voilà, c'est ça, Mercure.
Yes. Ben, on va mettre le lien en commentaire pour ceux que ça intéresse pour aller un petit peu checker ça. Justement, tu dis que c'est juste de la formation vidéo. Et maintenant, j'imagine que ça va être des checks.
Il y a un groupe Facebook aussi et il y a des coachings live dedans et des réponses aux questions. Tu vois, on discute tous les jours avec des gens. Et en fait, ce qui est top, c'est que tu peux bénéficier des réponses des autres personnes en permanence. Donc, c'est vraiment un groupe Facebook tout simple. Il y a quelqu'un qui arrive, dit voilà, j'ai tel problème, j'essaie de vendre au téléphone avec tel client, il s'est passé ça, comment je dois faire? Et nous, on va répondre. Donc, c'est soit Florian, Jérémy ou moi qui répondons avec un avis d'expert. Mais tu as aussi les autres personnes qui, eux, bah, sont dans le programme, qui vont donner leur avis. Tu vois. Donc, c'est un peu comme un forum, mais juste on est chez Facebook parce que c'est plus simple.
Ok. C'est vrai que je voulais te demander un petit peu les rôles, mais tu as déjà répondu, les rôles de chacun, tu as déjà en partie répondu. Et je voulais rebondir sur quelque chose que tu as dit d'intéressant. C'est une question qui revient souvent à chaque fois et qui n'a pas une réponse assez détaillée. C'est le fait que ben, quand ils te disent, par exemple, à tes débuts, tu as un système d'acquisition qui est repo. Ça, qu'est-ce que ça veut dire dans le détail? Parce que ça, je pense à peu près ce que tu as dit, non?
Que mon système client était pourri, ouais.
Justement pour faire de l'acquisition, pour aller chercher.
Moi, ils me l'ont pas dit comme ça, mais juste c'est moi qui ai compris, tu vois. Je me suis dit, ah ouais, putain, leur truc, il est vraiment pas mal. Je faisais du bricolage jusqu'à présent, quoi.
Donc j'avais des clients. Est-ce que tu peux me dire avant à peu près ce que toi tu faisais?
Avant, en fait, je faisais pas mal de réseaux et enfin j'ai eu tous mes premiers clients à travers mon réseau. Donc, j'allais voir des personnes où je savais qu'ils avaient potentiellement besoin d'un copywriter. Je leur écrivais de façon très maladroite. Je regarde des fois mes messages et bah, je savais vraiment pas vendre, en fait. Donc, j'allais le pied dans le plat. Voilà, moi, je fais du copywriting. Moi, au lieu de dire, toi, de quoi t'as besoin, tu vois? Est-ce que moi, je peux t'apporter quelque chose? Et du coup, j'ai fait aussi pas mal d'outbound. Donc, j'écrivais à des personnes qui pouvaient potentiellement avoir besoin d'un copywriter. Pareil, avec des taux de réponse pas ouf parce que j'avais pas bien.
Cold mailing,
ouais. J'avais pas bien ciblé mon couple cible problème et j'avais pas de connaissances client, donc c'était très maladroit. Mais après, voilà, tu vois, je me suis lancé, j'ai fait le truc et c'est comme ça que ça se passe, tu vois. Alors, c'est pas du jour au lendemain, bam, ça y est, je close tous mes deals du premier coup. Si tu commences. Et donc ensuite, j'ai commencé Mercure. Mercure, c'est assez simple, c'est des interviews.
C'était quoi exactement? Sur quel type de plateforme? Sur Facebook, du LinkedIn ou du scraping d'email que tu avais en plus? Et après, tu écrivais à cette base de données email. Où est-ce que tu allais comme ça discuter avec ces...
J'avais ciblé en minimum, tu vois, moi je voulais bosser avec des entrepreneurs et des coachs. Et donc j'allais par exemple sur un podcast comme le tien, et j'allais prendre toutes les personnes dedans qui allaient vendre de l'entrepreneuriat ou du coaching, et j'allais leur écrire en disant voilà, j'ai écouté ton podcast, j'ai kiffé ta personnalité parce que ça. Et j'écrivais pas à tout le monde, hein, j'écrivais aux personnes qui me plaisaient vraiment et qui j'avais envie de bosser. Et donc je leur écrivais, puis il y en a avec qui ça matchait plus ou moins, tu vois. Enfin, il y en a avec qui ça matchait, on devenait client, il y en a avec qui ça matchait pas. Et donc bah je les signais pas tout
Super
de suite.
malin ça, c'est super,
Bah,
c'est très net parce que
c'est super malin, mais
si
c'était
tu es
encore
un
plus
média business, je suppose qu'il y a potentiellement des profils qui matchent avec ce que tu fais et le tri il est beaucoup plus facile que d'aller trier sur 100 000 personnes ou 1 million de personnes sur Google. Tu vas directement le podcast ou une chaîne YouTube, c'est pas non plus, c'est pas 1 000 interviews, tu vois. Tu auras peut-être pour les plus bosseurs une centaine d'interviews. Tu pourras aller faire le tri comme ça sur les profils les plus intéressants et travailler sur le message. C'était pas con en même temps. Et c'est ça en fait que tu dis que tu as pu peaufiner au niveau du message, au niveau de...
Bah, ça c'était moi qui l'avais fait, j'avais un peu bricolé, et puis du coup ça a marché, tu vois, j'ai chopé quelques clients, mais bon, c'était un business, je faisais 2-3 000 euros par mois, tu vois. C'est bien, j'avais ma liberté à ce moment-là, j'étais, comme tu disais, un peu nomade, j'étais un peu en Asie, je découvrais tout ça, donc pour moi ma vie elle était ouf. Mais voilà, moi je savais que je voulais monter un business plus solide, enfin j'avais déjà beaucoup d'ambition. Et du coup, bah, ce genre de système, tu vois, c'est du bricolage. Puis il y a des mois, tu fais 3 000 euros, il y a des mois, tu fais 1 000 euros, tu vois. Donc, tu es un peu tout le temps un peu en stress. Tu te dis, putain, il se passe quoi si je ne signe pas de nouveaux clients? Et du coup, après, j'ai mis le système Mercure en place. Et maintenant, on est même allé encore plus loin. Donc, moi, c'est ce que je fais maintenant, là, à temps plein. C'est, j'accompagne des gros copywriters, des coachs business, des experts en marketing. Et donc, là, on a une méthode. C'est un peu la méthode que dont je te parlais avant, que moi, j'utilisais sans vraiment le savoir. Sauf que là, c'est vraiment un truc. Millimétré quoi.
De ce
Donc
que tu
tu sais exactement à qui tu parles, donc la cible, tu sais exactement le problème que tu résous pour elle, donc couple cible plus problème. Tu as énormément de connaissances clients parce que tu connais très bien cette personne, et donc quand tu lui écris un message, tu sais déjà qu'elle va dire oui en fait. Donc tout le travail en amont, en fait, c'est vraiment un rôle de sniper, tu vois. C'est t'attends, tu récupères un maximum d'informations, t'apprends à connaître la personne mieux qu'elle-même, et souvent tu la connais déjà parce que c'est quelqu'un qui est proche de toi. Ensuite, tu sais quel type de personne tu cibles. Donc, si par exemple, tu prends un animal, tu vois, genre, mettons que tu chasses le sanglier, bah, tu vas savoir où va boire le sanglier, tu vois. Où est-ce qu'il va aller se nourrir, etc. Et donc, ça, c'est l'endroit où, par exemple, il va poster du contenu sur les réseaux sociaux. Donc, tu sais exactement où le trouver, avec quel type de mots-clés, etc. Et vu que toi, tu es en tant que sniper, une fois que tu as trouvé la bonne personne, qu'elle répond bien à tes critères, parce que tu as aussi des critères très, très précis de personnes avec qui tu veux bosser, avec qui tu veux pas bosser. Par exemple, moi, un rêveur qui me dit, voilà, je vais faire 100 millions en 2 ans, je lui dis, bon, écoute, t'es gentil, moi, je vais aller bosser, ça m'intéresse pas de bosser avec toi. Par contre, il y a plein de personnes aujourd'hui qui sont pertinentes, qui rentrent sur le marché, etc. Donc, ces personnes, tu peux les trouver. Et donc là, tu es en mode sniper, elles arrivent et bah, tu peux les signer directement. Et tu arrives avec un deal où tu parles à la personne, tu lui donnes exactement ce qu'elle, elle veut. Parce que tu sais, en fait, tu vois, tu as pris le temps de faire tes devoirs, de te renseigner et de savoir exactement ce dont la personne a besoin. Et donc, quand tu arrives avec une offre, en fait, c'est un no-brainer. Elle se dit, putain, mais le mec, il vient de résoudre tous mes problèmes et il va me donner exactement ce que je veux dans la vie. Et enfin, comment je pourrais lui dire non, tu vois? Donc, en fait, c'est un deal vraiment win-win, quoi. Donc, là, c'est la version actuelle qui est vraiment bossée, millimétrée.
Bah, dis-moi, Pierre, combien gagne un copywriter?
Bah, c'est vraiment, je te dis, ça dépend de. Si on parle d'un vrai copywriter ou d'un copywriter sur Malte, quoi. Un copywriter sur Malte, il y en a qui gagnent peut-être 100 euros par jour, tu vois. Donc, ils sont vraiment qui vendent des petits articles de blog, des trucs comme ça. Et des copywriters qui gagnent plusieurs millions par mois.
En écrivant des pages de vente et des
Bah, en fait,
écrits.
si tu es juste copywriter, ouais, aux États-Unis, ouais. En France, je ne connais pas qui font plusieurs millions par mois. En France, tu peux monter facilement à plusieurs millions par an. genre 2-3
Ouais,
millions.
Grégory, lui, doit faire au moins du 3
Ouais,
ou
mais
4. Il en parle même, des choses qu'il en parle ouvertement.
tu vois, Grégory, lui, son business, c'est pas de vendre, c'est plus de vendre du copywriting. Aujourd'hui, il vend de l'accompagnement et il vend aussi du
Il
done for you business.
écrit des emails aussi.
Ouais, mais il fait pas que les emails, en fait. Il fait vraiment toute la partie stratégie. Donc, tu vois, ce dont je te parle depuis avant, le côté couple, cible, plus problème, plus la connaissance client. Il fait pas uniquement la rédaction d'email. En fait, la rédaction d'email, c'est la partie email,
Ouais, c'est
iceberg.
le finish, quoi, ce que ça
C'est les
donne à la
10%, en fait. Et si tu fais pas les 90% en dessous, bah, forcément, tu vas être payé 100 € par jour. Par contre, si tu fais les 90% en dessous, tu peux être payé plusieurs millions. Donc, tu vois, il y a vraiment ce côté, en gros, c'est un arbre. Et si tu veux les arbres les plus juteux, faut que tu montes en haut. Et si tu restes en dessous, tu vas toujours garder les fruits pourris parce que, bah, tout le monde aurait déjà pris les fruits juteux, tu vois. Et plus
Yes.
tu montes, plus il y aura de fruits juteux et plus ce sera facile de les prendre. Tu en auras partout autour de toi et tu sauras même plus lequel choisir. Tu
Et toi, aujourd'hui, tu as dit que tu vends plus du copywriting. C'est quoi les critères pour bosser avec toi, je veux dire. Est-ce que déjà tu peux nous parler un petit peu de ton onboarding lorsque tu bosses avec quelqu'un, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une typologie de profil, un CA minimum ou je sais pas, c'est quoi pour quelqu'un qui veut bosser avec Pierre Godard aujourd'hui? C'est quoi ton client idéal?
Bah là, du coup, sur la dernière offre qu'on a en ce moment, donc il y a 100K, c'est quelqu'un qui fait déjà au minimum, je sais pas, 5 à 10 000 de bénéfices par mois avec son activité. Donc il y a déjà une activité qui tourne. Donc comme je te disais, qui est soit copywriter, business coach ou marketeur, expert en marketing, enfin qui a une forte compétence de vente et donc qui peut apporter des résultats à quelqu'un en allant s'associer avec lui. Tu peux me répéter ta question? Est-ce que j'ai répondu ou
Je pense que tu es encore en train de développer, puisque la question c'était de comprendre un petit peu l'onboarding, le profil de la personne et
onboarding. Moi,
comment
j'ai pas d'onboarding particulier.
de pricing, comment ça se passe et tout.
L'onboarding, pour moi, en fait, il se fait dans le process de vente. Dans le process de vente, on apprend à se connaître, on apprend à voir si on match. Bah, de toute façon, j'arrive assez vite à éliminer quelqu'un qui n'est pas sérieux. Juste dans leur façon d'écrire, dans leur façon de communiquer, tu peux savoir déjà si les gens ils sont sérieux ou pas. Au bout de quelques messages. Et après, les personnes qui sont plus sérieuses, que je sens avoir du potentiel, assez souvent, on a des gens dans notre environnement, donc j'arrive un peu à savoir où en est cette personne, est-ce qu'elle est sérieuse, qu'est-ce qui fait qu'elle n'est pas encore explosée. Parce que souvent, le truc, c'est que moi, là, je cherche des profils de personnes qui font 5, 10 000 ou plus par mois, tu vois, mais je ne cherche pas encore des personnes qui sont à plusieurs dizaines de millions par an. Donc, pourquoi est-ce que cette personne n'a pas encore explosé, tu vois? C'est quoi les blocages qu'elle a dépassés? Par exemple, tu vois, moi j'ai mis du temps à exploser parce que j'avais des gros blocages avec l'argent. Dès que j'ai réglé ce problème, la semaine d'après, je faisais 50 000 euros, tu vois. Et juste
C'est
parce
quoi
que
ce montage avec l'argent?
bah, je pensais que l'argent c'était mal et avoir de l'argent, bah, tous mes proches allaient me juger et que j'allais être une mauvaise personne. Et bah, éducation classique française un peu religieuse, tu vois. Enfin, moi je suis pas religieux, mais c'est. Et ma famille est pas religieuse non plus, mais c'est les restes qu'on a de la France en mode, bah non, l'église, on donne aux vilains juifs l'argent et nous on n'en touche pas parce que c'est mal, tu vois. Et bah c'est les restes, tu vois. Après, c'est comme ça, hein, tu vois. C'est l'histoire, c'est la culture. Mais juste, bah, moi, je trouve que c'est ultra néfaste pour faire du business. Donc, moi, aujourd'hui, je vois l'argent comme un outil. Je trouve ça cool. Ça te permet de résoudre tes problèmes. Ça te permet de kiffer la vie. Si tu as envie d'aller faire une semaine de vacances avec tes potes, tu te poses pas tu te prends pas la tête. Voilà, tu prends ton billet d'avion, tu prends ton Airbnb, puis tu kiffes, quoi. Et après, tu te concentres sur ta mission, aider les gens et tes focus, quoi. Donc, c'est vraiment. Voilà, je regarde, est-ce que les gens, ils ont encore des blocages? Est-ce que c'est des trucs qu'on peut bah, faire sauter rapidement? Ou est-ce qu'ils vont rester dans leur blocage pendant des années? Il y a des gens, ils ne veulent pas résoudre leurs problèmes. Moi, ça ne m'intéresse pas de parler avec ces gens-là, tu vois. Si par contre, tu as une mission de vie, tu as un truc vraiment qui te booste au fond de toi et que tu as encore des problèmes, et c'est OK, tu vois, mais que tu as envie de les résoudre, bah là, moi, je suis vraiment ce genre de personne que je recherche, quoi.
Yes. Et quand tu parles de 100K, c'est sur une période bien définie ou c'est...
Ouais, en fait, si tu veux, l'idée c'est pas d'étouffer les gens, donc c'est on peut échelonner les paiements. Il y a 15K upfront pour la formation. Donc là, tu découvres le système pour toi closer tes propres clients. Et ensuite, il y a un coaching avec moi en one-one. Et là-dessus, bah c'est ça peut s'échelonner. Il y a une partie aussi en fonction des résultats. Donc tu vois, ça permet à la personne de pas prendre trop de risques. Voilà.
Yes. Super intéressant. Je voulais qu'on parle un petit peu de ton aventure à Chiang Mai, on revient un petit peu derrière à l'époque. Qu'est-ce que ça a changé pour toi? Est-ce que tu peux nous parler? Je sais que t'as participé justement à ce gros event que Stan Leloup de Marketing Mania. Et tu peux nous parler un petit peu de ça? Comment est-ce que tu as vécu ça? Est-ce que c'était un petit peu comme dans les podcasts de Nomad Digital qu'on écoutait à l'époque là où c'était magique? C'est quoi? Qu'est-ce qui?
Ah, moi, j'ai trouvé ça beaucoup moins magique que Stan, tu vois. Parce que les gens, ils sont très lifestyle. Et moi, je commençais déjà à faire ce switch de, en fait, le digital nomadisme, c'était bien quelques mois pour voyager, monter mon business au début. Mais là, maintenant, moi, j'ai juste envie d'être posé à un endroit et de construire ma vie, tu vois. Ouais. J'ai plus envie de vadrouiller partout. Alors, bien sûr, je vais me faire des week-ends, des vacances, des trucs comme ça, hein, mais j'ai plus envie d'être un peu un SDF de luxe, tu vois.
SDF de luxe. Mais en termes de contenu, si on exclut le lifestyle...
Il y a du contenu intéressant. Tu vois, par exemple, j'ai rencontré John Lagar. Je ne sais pas si tu vois qui c'est. C'est un très, très gros consultant australien qui bosse beaucoup aux US.
On a déjà parlé de ce mec.
Je crois que lui, du coup, ça a dû évoluer, mais il a signé 4 milliards de deals à travers ses clients et son business. Donc, tu vois, ça commence à être assez solide. Et lui, c'est
un gros. Il a une grosse team, non ?
Ouais, il a une grosse boîte. C'est une très, très grosse boîte. Bah, c'est le genre de mec qui peut payer un copywriter 75K, 100K, 200K pour une séquence email parce que derrière, il fait 5 millions avec le lancement. Tu vois. Et donc, lui, par exemple, j'ai pris un petit déj avec lui. C'était vraiment trop cool. On a pas mal discuté. Tu rencontres comme ça des gens qui sont assez avancés. Il y a plein de sujets qui sont intéressants. Tu vois, il parle beaucoup de rachat d'entreprise. Mais après, moi, je pense que c'est juste les conférences, c'est pas trop mon format parce que ça me fatigue de ouf. Moi, je préfère être dans une salle, tu vois, je préfère discuter comme ça avec toi, avoir une conversation profonde, plutôt qu'être avec 300 personnes et dire salut, tu fais quoi, salut, tu fais quoi, salut, tu fais quoi. Alors, moi, ça me fatigue, j'ai juste envie de rentrer dans ma chambre d'hôtel et dormir, tu vois.
Ouais, c'est intéressant tout ça. Et sinon, la ville,
le DC, moi, je recommande, enfin, c'est vraiment une bonne expérience.
Yes. Et tu penses y retourner ou...
Non, je pense que je vais aller dans des communautés plus 100% business, quoi. Moins des gens qui veulent le lifestyle.
Et en Estonie, justement, tu étais à Tallinn ?
Tallinn, ouais. Pas Tallinn.
Tallinn, j'ai dit Tallinn. Tallinn, c'est autre chose. c'est une autre personne. Tu étais à Tallinn et du coup, à Tallinn, est-ce que tu... En off, tu me disais quand même qu'il y avait une grosse communauté francophone.
Francophone, international aussi, ouais.
International, et il y a des events, enfin là actuellement avec le confinement, forcément, mais est-ce qu'il y a des trucs qui sont organisés souvent
Ouais, tu vois, par exemple, l'ambassade française, elle va faire des events avec tous les entrepreneurs français. Donc là, il n'y en a pas encore eu parce que justement, confinement, etc. Mais c'est le genre de truc qui va reprendre. Et après, c'est pas vraiment des events, mais c'est des soirées, des dîners, des trucs comme ça. Moi, c'est ce que j'aime en fait comme
façon. Un comité réduit, quoi.
Ouais, ou des fois, il va y avoir 30 personnes, mais bon, t'as une table avec des gens, et puis tu discutes, quoi. C'est pas, tu passes de conférence à conférence, puis t'es, enfin, je sais pas, c'est fatigant, tu vois. Je préfère un petit truc convivial, et après, je rentre chez moi, et je peux retourner lire ou bosser, tu vois.
Yes. Et on parle de ta chaîne YouTube. T'as justement aussi une chaîne YouTube où c'est essentiellement des interviews. J'ai pas encore vu de monologue dessus. Une chaîne YouTube. Pardon ?
Que des interviews comme toi.
Et effectivement, où tu fais intervenir plein de profils, notamment tes associés qui sont passés dessus, Mr. Coleman, Mr. Morata. Il y a aussi Stan qui est passé, et François Fillette que j'aime. Mais moi, je suis passé à l'époque, que je me rappelle plus, je faisais au début.
Le 8e, je crois, ouais.
C'était ma première interview en plus.
Je me souviens, au début, tu me disais, ah bon, t'es sûr que tu veux m'interviewer?
Qu'est-ce que tu veux que je raconte? C'est bizarre. Et puis, tu vois, inconsciemment, je ne me rendais pas compte que, mais, qu'est-ce que t'es con? T'es interviewé des personnes toutes les semaines. Et là, tu es en train de stresser pour te faire interviewer toi. Pourtant, tu fais passer les gens sur ce format-là toutes les semaines. C'était bizarre, quoi. Mais c'est une expérience. Moi, j'ai plutôt adoré. C'était plutôt cool. Et en plus, c'était plutôt en bonne compagnie. Et puis, bon. Maintenant, j'ai beaucoup moins ce blocage-là. C'est pour parler de moi tout en restant modeste. Et ouais, c'est ça le fait. Donc, cette chaîne YouTube, comme je disais, tu fais intervenir plein de profils dessus. C'est quoi un petit peu ton objectif avec cette chaîne YouTube-là?
Bah, moi, tu vois, je suis pas du tout youtubeur, podcasteur, c'est pas forcément le positionnement que j'ai envie de faire. Moi, je suis vraiment businessman. Mais par contre, je sais que comme je crois qu'on a, je sais plus si on en a parlé pendant l'interview ou en off, du coup, je confonds. Mais l'idée, c'est que tu peux attirer des profils intéressants à toi à travers ça. Donc, en fait, tu vas interviewer quelqu'un comme Alexandre Cormon, par exemple, qui est devenu, bah, c'est devenu un très bon pote après l'interview, tu vois. Il semble que tu l'avais interviewé aussi, on en avait parlé.
J'avais reçu aussi Alexandre. C'est quelqu'un qui il est super cool et en plus il est
Elle est
tellement
adorable.
humble. C'est pas pourtant de base comme ça à distance, tu vois, tu dis wow, c'est un mastodonte et tout, mais lui, dès que si t'es cool avec lui, ben, il est cool avec toi, quoi. Il y a
On a fait une soirée ensemble à Bangkok. Enfin, c'était, mais on s'est trop marré, tu vois. En fait, lui, il bosse avec tous ses potes d'enfance. Donc, ils étaient tous au lycée ensemble. Ils sont un groupe de 4 ou 5, je crois. Et du coup, on était avec tous ses potes. Il y avait aussi Jérémy. Il y avait plein d'autres personnes qui étaient en Thaïlande. Et on a fait une super soirée. C'est vraiment trop cool. Tu vois, il est ultra accessible, Alex. C'est cool. Alors que lui, bah, il a commencé il y a longtemps. Donc, tu vois, il a déjà un gros business. Il est bien en place. Mais il reste ultra accessible, ultra sympa. Et il va toujours t'aider, etc. Donc, ouais, les interviews, il y a vraiment ce côté. Ça, je m'y attendais pas au début quand je me suis lancé. Je crois que toi aussi, bah, d'ailleurs, tu t'es associé avec une des personnes que tu as interviewé. Et en fait, des fois, tu
Florian.
crées limite le plus de bénéfices avec la personne qui t'interviewe qu'en le partageant, tu vois.
Non,
Alors
clairement.
au début, tu te dis juste, non, bah, je vais partager aux gens, puis je vais créer du contenu. Alors qu'en fait, c'est un outil de réseau de ouf, quoi, parce que tu rencontres des gens. Tu vois, là, la conversation qu'on est en train d'avoir, ça fait 45 minutes qu'on parle ensemble. Au final, c'est assez rare de parler 45 minutes avec quelqu'un en one-one et de prendre le temps, etc. Alors que les interviews, tu as vraiment le temps de le faire. Du coup, tu crées un peu toujours comment dire, cette complicité entre deux personnes, quoi. Sinon, moi, ce qui m'intéressait, c'était de parler de sujets de plus haut niveau. Parce que tu vois, le contenu sur Internet, bah, c'est principalement pour les débutants, parce qu'il y a beaucoup plus de débutants. Moi, ce que je voulais faire, c'était un truc plus bah, de marketeur qui était déjà avancé. Marketeur, copywriter, de mec qui fait de personne qui fait du business. À un plus haut niveau avec des experts. Et dans ma niche qui est l'accompagnement, les formations. Donc voilà ce que je partage sur YouTube. J'en fais un peu moins aujourd'hui. Je vais en faire moins, mais plus qualitatif avec des personnes uniquement avec des personnes vraiment avancées qui ont une très forte expertise.
Yes, et ça veut dire qu'il n'y a pas forcément une idée d'avoir un truc comme ça régulier une fois par mois, une fois chaque 2 semaines bimensuelle ou une fois par semaine.
Aujourd'hui, ça va pas c'est pas aligné avec mes objectifs. Moi, c'est un truc que je kiffe faire personnellement, donc je pense tôt ou tard je vais le refaire. Mais aujourd'hui, il faut vraiment que je sois focus sur le plus important pour moi. Et je vais en faire quelques-unes quand ça me fait vraiment plaisir. Mais j'ai plus autant d'énergie et de temps à consacrer à ça chaque semaine, quoi.
Yes. Bah, c'est intéressant tout ça, Pierre. C'est vrai qu'il y a encore tellement de choses qu'on peut brosser, mais bon, je te propose qu'on aille vers les questions de fin que je pose à chaque fois. Mais avant, je voulais que tu me dises une chose. Est-ce que tu peux me parler de ta pire nuit blanche?
Ma pire nuit blanche.
Ouais.
Bah, moi, je pense que j'ai fait énormément de nuits blanches quand j'étais plus jeune, donc il y a 2-3 ans, parce que je faisais énormément la fête. La pire. Je crois que la pire, c'était à Montpellier, donc j'étais avec un bon pote à moi. C'est vraiment le genre d'histoire que je raconte pas d'habitude en interview. On est allé dans. En fait, on s'est retrouvé à 5 heures du mat à Montpellier parce qu'on a pris des covoiturages et on a les deux eu un problème dans notre covoiturage. Donc, on s'est retrouvé à 5 heures du mat. On pose nos affaires en Airbnb et en fait, on voulait aller en soirée, tu vois. Et du coup, on fait bon, il est 5 heures du mat, le club il va fermer à 6 heures, est-ce qu'on y va? On fait allez, on y va, on prend un taxi, on y va. Et du coup, on sort, bah, le truc il ferme tout de suite, tu vois, il a fermé à 5h30, 6h. Et puis nous, bah, on s'était retrouvés, on voulait vraiment faire la fête. Et c'était l'époque où moi je faisais des soirées, mais enfin, je me couchais, je faisais des vraies nuits blanches, tu vois, on allait se coucher à midi, des trucs comme ça. Et en fait, on est allé dans un club juste à côté, un club à after. Et en fait, enfin, tu vois, on y allait, on était déjà bourrés et tout, donc on se rendait pas trop compte. Tu vois, t'es en soirée, t'es festif, t'es gentil avec tout le monde. Et mon pote, il va parler avec une nana, tu vois. Il y avait pas grand monde. Donc on va dans un club à after juste à côté. Et en fait, on s'était pas rendu compte. Il y avait pas grand monde dans le club. Mon pote, il commence à aller parler avec une nana. Et là, il y a 3-4 gars qui se mettent autour de lui et qui commencent à l'embrouiller. Je me dis, oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, du coup, c'était un club un peu gitan comme ça. Et donc, les gars, ils ont sorti des couteaux et enfin, ils voulaient. Ils pensent, en gros, c'était la femme d'un des gitans et ils pensaient que mon pote, il voulait la pécho. Alors, je sais pas s'il voulait la pécho ou pas, mais il était juste en train de lui parler. Et donc, bah, on avait 4-5 gitans comme ça avec des couteaux qui étaient pas loin de partir, de vraiment s'énerver avec nous. Et donc moi je suis arrivé, je fais oulala, calmez-vous, mon pote il est marié, etc. Enfin il va pas toucher à la nana, il est juste un peu sous, il rigole avec elle. Et ils me font bah cassez-vous. Donc on est parti, on est rentré au Airbnb en toute vitesse. Je te dis, ça nous a vite calmé.
C'était chaud quand même. Yes. Et c'est quoi ton obsession aujourd'hui?
Mon obsession aujourd'hui, c'est de faire avancer l'éducation pour les gens qui veulent se bouger le cul. Tu vois. Pas pour tout le monde. Avant, je voulais sauver tout le monde. Je voulais créer un nouveau système éducatif. Et maintenant, je m'en fous. C'est pas que je m'en fous, mais c'est que c'est pas mon combat. Moi, mon combat, c'est de créer un système éducatif pour les entrepreneurs et les gens qui veulent se bouger. Quoi. Mm-hmm. Les gens qui remettent tous les jours en question leurs barrières limitantes. Tu vois.
Yes. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu peut-être ta vision à moyen long terme? Est-ce qu'il y a comme ça une éventualité pour que d'aller chercher un truc plus gros, ou c'est juste d'avoir cette pérennité là, d'être libre, de faire ce que tu veux, quand tu le veux, comme tu le veux? Est-ce qu'il y a derrière comme ça je sais pas, peut-être un projet un peu plus grand que tu aimerais réaliser à moyen long terme, un gros monstre, construire quelque chose de plus gros, ou c'est beaucoup plus dans ouais, je vais être libre, je vais kiffer et en même temps rester libre?
Non, bah, il va y avoir un truc plus gros. Alors après, tu vois, moi, pendant longtemps, je faisais les exercices de vision, les trucs comme ça, puis au final, ça change tellement que je trouve que ça sert un peu, c'est un peu la masturbation intellectuelle. Mais l'idée, c'est là, tu vois, il va y avoir un gros changement structurel de la société. T'as énormément de gens qui vont perdre leur job. Et qui vont se rendre compte en fait que bah le fameux CDI c'est pas si sécurisé que ça, et qui vont vouloir générer des revenus. Et il y en a plein qui vont se lancer dans l'entrepreneuriat parce que ils vont se rendre compte que c'est vraiment une super solution. Enfin, que tu peux avoir vraiment une vie beaucoup plus saine. Genre, on voit aujourd'hui que le salariat, c'est pas du tout, pour moi, c'est pas un truc bon pour la santé, quoi. Tu vois, la plupart des gens, ils sont déprimés, ils font des burn-out, enfin tu vois leur tête qui sont mal, tu vois, ils font pas ce qu'ils aiment. Donc pour moi, c'est vraiment ça, c'est aider les gens qui veulent vraiment se bouger le cul à créer un peu leur vie, tu vois, et créer un truc plus gros autour de ça. Alors après la forme que ça va prendre, le chemin va se faire de lui-même, tu vois.
Yes. Pierre, ce podcast s'appelle Débrouillard. Donc, pour toi, c'est quoi un débrouillard?
Débrouillard, pour Sébastien Tissier, c'est démerdard. Ben, un débrouillard, je pense que c'est un peu pas quelqu'un comme Seb, comme toi, moi je pense aussi l'être, c'est un peu un entrepreneur en fait. C'est quand les gens voient des problèmes partout, toi tu cherches les solutions, quoi.
Yes. On t'écrit sur LinkedIn, c'est quoi le meilleur endroit pour entrer? Non,
le mieux c'est Facebook Messenger.
On va mettre les liens en description. C'est la page ou c'est ton profil perso? C'est
mon profil perso.
Ok, on va mettre les liens en description d'épisode, et aussi ta chaîne YouTube pour que les gens aillent un petit peu voir les contenus de ce que tu fais en ce format interview. C'est des sortes de micro masterclass, parce que c'est pas des trucs qui s'écoutent pour en lavant des assiettes ou en faisant la vaisselle ou en faisant de la lessive. C'est vraiment t'écoutes et tu prends une feuille avec un stylo, tu notes. Donc c'est vraiment
C'est vraiment des trucs qu'on pourrait vendre largement, quoi. Il y a énormément de valeur.
Yes. Donc, on va mettre le lien de la chaîne YouTube en commentaire. Et aussi, tu as aussi une mailing list où tu partages du contenu. Je ne sais pas à quel rythme, mais au moins une fois par semaine, je sais que tu envoies.
J'ai pendant longtemps écrit une fois par jour, maintenant un peu moins, parce que bah, je suis plus focus sur ce qui se passe en coulisses. Mais toutes les infos sur les offres à venir, etc., c'est par email, en privé. Et donc, bah, il y a une petite page que tu pourras mettre pour s'inscrire.
Yes, on va rajouter ça aussi en description. Je te remercie encore, Pierre, pour
merci à toi.
Une deuxième fois sur le podcast. Pour
un plaisir de parler avec toi, Guy. C'est vraiment plaisir.
J'espère qu'on va se faire un follow-up bientôt pour reparler justement des projets à venir. Merci encore, Pierre. Je te dis à très vite.
À très vite.
Top.